on feuillette Victor Hugo comme lui-même feuillette l'univers à coups de sagas immenses. On entend cette langue pulsatoire, cosmogonique, excessive et jubilante, déployée dans une saisie qu'on dirait aujourd'hui galactique, indéfiniment immergée et émergente, qui veut déverrouiller les bords de la création et délivrer l'immensité. Et en son sein, quelques événements forts ou simplement quelques éblouissements singuliers, Henri Van Leer.
Nous disions qu'à partir de Stendhal et Balzac, les auteurs définissent eux-mêmes ce qu'ils font. On pourrait dire qu'ils font la théorie de l'œuvre qu'ils édifient. Et c'est tout à fait vrai de Victor Hugo. Je crois qu'il se définit parfaitement lui-même à propos de quelque chose. Il parle de l'esprit humain, mais c'est pas tellement important. Pour finir, tout ce qu'il dit, c'est lui. C'est tout son rapport au langage, à la parole, à l'ensemble des mots. Mon nom est Légion. Je suis l'essaim des bruits et la contagion des mots vivants, allant et venant d'âme en âme. Je suis souffle, je suis cendre, fumée et flamme. Tantôt l'instinct brutal, tantôt l'élan divin, je suis ce grand passant, vaste, invincible et vain qu'on nomme vain. Et j'ai l'étoile et l'étincelle dans ma parole, étant l'haleine universelle. Oui, écoutez ceci comme une théorie du langage, comme étant donc, il y a le cerveau, et dans ce cerveau, il y a des milliers de mots. Victor Hugo est sans doute, à peu près de tous les cerveaux qui ont existé, peut-être celui dans lequel les mots, entre eux, ont eu le plus grand nombre de rapports. Je dis d'abord entre eux. On dirait que tout se passe d'abord intracérébralement. Il voit Veuillot, eh bien, comme il voit Veuillot, eh bien, il dit voyant, voyant Veuillot. Et alors quoi, voyant venir Veuillot? Non, voyant vaguer Veuillot. Voilà, voyant vaguer Veuillot, la foule prend la fuite. Et j'ai un vers d'Hugo. Mais ces mots qui renvoient les uns aux autres, ils renvoient tout le temps, alors globalement, non pas un à un, mais globalement, comme ensemble, comme champ, comme grande nappe, il renvoie sans cesse à la réalité extérieure. Donc vous avez les mots, et en dessous des mots, vous avez le souffle. Je suis cette haleine. L'haleine est long la bouche, précise-t-il, continue. Un zéphyr me grandit et m'abat. Et quand j'ai respiré, j'ai tout dit. Je suis, c'est pas de nouveau un jeu. Il est aussi multiple que Balzac. Il est autant peut-être une foule que Balzac. Je suis géant et nain, faux, vrai, sourd et sonore, populace dans l'ombre et peuple dans l'horreur. Je dis moi, je dis nous, j'affirme nous nions. Je suis le flux des voix et des opinions. Le fantôme de l'an, du mois, de la semaine, fait du groupe fuyant de la nuée humaine, homme toujours en moi, la contradiction tourne sa roue obscure, et j'en suis l'ixion. Démos, c'est moi. C'est moi, c'est qui marche, attend, roule, pleure et rit, nie et croit. Je suis le démon foule. Le poète, en tout cas celui qui est dans la situation du littérateur, est celui qui est cette foule. Cette foule de tout un langage, peut-être de plusieurs langages d'ailleurs, parce que c'est le français, mais c'est aussi des teintures de l'allemand, de l'anglais. Ça a commencé avec Stendhal. L'écrivain français est quelqu'un qui pense deux langues, peut-être trois langues en même temps. Et je ne suis pas seulement alors cette sorte de décision, mais je suis aussi et tout autant l'indécision. Donc, disons-le tout de suite, il est entendu qu'il n'y aura jamais de choix idéologique. Je ne suis jamais de tel parti ou de tel autre. Je suis le médiocre immense. Toutes les fois qu'on parle et qu'on dit mitoyen, mode, médiateur, méridien, moyen, par chacun de ces mots, on m'évoque, on m'adjure. Et tantôt c'est louange et tantôt c'est injure, je suis l'esprit milieu. L'être neutre qui va abattre, au Iblis, au sans voir Jéhovah. Hein, la banalité serait que l'être neutre qui va trouver Iblis, et oh, va trouver Jéhovah. Non, je ne trouve aucun des deux. L'être neutre qui va sans trouver Iblis, oh, sans trouver Jéhovah, dans le nombre. Je suis multitude dans l'être borne. Je m'oppose, homme, à l'excès de connaître, de chercher, de trouver, d'errer, d'aller au bout. Je suis tous l'ennemi mystérieux de tout. Bien entendu, Hugo, lui, comme saisie globale de lui-même, il est davantage du côté de tout. Il n'est pas du côté de tous. Mais pour atteindre ce tout, il faut quand même, en même temps, être dans la médiocrité, la mitoyenneté de tous. Que le bien, que le mal, tel fait est constaté, soit il faut maintenant voir l'autre extrémité. Et d'où le privilège de l'enfant. Il faut sans doute être ce cerveau où jouent tous les mots. Mais il faut être le souffle, et en dessous du souffle, ou dans sa pratique peut-être la plus essentielle, il faut être la jaserie. Le grand poète est celui qui est toujours d'abord dans la jaserie. La jaserie avant le langage est la fleur qui précède le fruit. Moins beau qu'elle est meilleure, si c'est être meilleur qu'être plus nécessaire. La jaserie est plus initiale, elle est plus nécessaire. Et quand j'entends l'enfant et cette bouche rose et l'auguste ouverture, d'où tombe, ô majesté de l'être faible et nu, sur le gouffre ignoré, le logos inconnu, le in principio, erat verbum, en archeno logos, il est là, dans la jaserie. Si les choses sont telles, on comprend alors que tout l'œuvre va être une longue descente. Descente, nous l'avons déjà vu peut-être, en dessous du langage constitué de ce langage qu'est la foule, en dessous de la foule et de la médiocrité même, le souffle, la respiration, en dessous de la respiration, le gazouillis de l'enfant, la jaserie, mais il faut descendre plus bas. Il faut descendre en deçà de l'enfant, dans l'animalité. Et puis nous le verrons, il faudra descendre dans la plante, il faudra descendre dans la mort. Dans l'animalité, un âne descendait au galop la science. C'est le premier vers d'un immense poème intitulé L'âne, et où justement, Hugo veut prendre ses distances avec tout ce qui est la cuistrerie pour lui. La cuistrerie, c'est le savoir. Surtout, ne méprisons pas la bête. Ô dédain de la bête et mépris de la chose, double faute de l'homme et son double malheur. Si pour la vie infime il eût été meilleur, au lieu d'écraser tout, s'il fait le contraire, au lieu d'être bourreau, s'il se fût montré frère, s'il eût compris l'amas vivant qui remuait, et l'être monstrueux, ce grand souffrant muet, l'homme, en butte à cette heure, aux aboiements de l'ombre, eût été l'aîné roi de la famille sombre. Il faut retourner à l'âne, à sa pitié devant le crapaud qui est sur le chemin et qui fait qu'il s'arrête. Mais, et alors ici nous atteignons peut-être, je n'insiste pas trop, parce que ce qu'il dit sur le végétal est tellement neuf dans la littérature universelle que je crois que c'est là qu'il faut s'attarder. Le satyre est bien entendu le poète lui-même, c'est Hugo lui-même. Nous allons d'abord nous le présenter. Un satyre habitait l'Olympe. Sans doute il habite l'Olympe, hein? Il habite la montagne élevée. Mais dans cette montagne élevée, qui est la montagne des dieux, il est là parmi les dieux. Mais il a un statut tout à fait à part. Un satyre habitait l'Olympe, retiré dans le grand bois sauvage au pied du mont sacré. C'est ce qui rend la lecture d'Hugo d'ailleurs très très difficile, comme vous voyez. Parce qu'on a tendance à glisser là-dessus. Retiré dans le grand bois sauvage au pied du mont sacré. Mais en fin de compte, il vient de faire tout un tableau. Il vient de nous dire que voilà, c'est proche des dieux, mais parmi les dieux, il y a quand même, là sur l'Olympe, il y a des endroits particuliers qui sont ce bois sacré et qui est au pied. Il vivait là, chassant, rêvant parmi les branches, nuit et jour, poursuivant les vagues formes blanches. Balzac nous avait déjà un peu habitués. Nuit et jour, poursuivant les vagues formes blanches, il tenait à l'affût les 12 ou 15 sens qu'un faux ne peut braquer sur les plaisirs passants. Oui, les sensations, mais aussi, rappelons-nous toujours bien, les milliers de mots de la langue et toutes les formes de la syntaxe. Qu'était-ce que ce faune? On l'ignorait. Et Flore ne le connaissait point, ni Vesper, ni l'Aurore. Qui sait où? Surprenant le regard du réveil. Voilà de nouveau une de ces notations à la Hugo. On glisse de nouveau. Hein, de l'Aurore, qui sait tout, surprenant le regard du réveil. C'est toute une théorie gigantesque. Valérie va écrire tout un poème sur ce thème-là. Hein, l'Aurore qui surprend le regard du réveil et qui donc parvient justement, descend dans le logos premier, dans la jaserie enfantine, dans l'âme de la bête, dans l'âme de l'âne. On avait beau parler à l'églantier vermeil, interroger le nid, questionner le souffle, personne ne savait le nom de ce marbre. Bon, la présentation. Mais alors voilà maintenant, qu'est-il? Que fait-il? Et Hugo va définir absolument exactement sa vision, qui est unique probablement dans l'histoire humaine, et qui est ceci. C'est comment voir le monde à l'envers. Le satyre semblait dans l'abîme songer. Il peignit l'arbre, vu du côté des racines. Et ça, personne ne l'avait jamais fait, et sans doute que personne ne le fera plus. Donc, c'est arrivé à voir non plus l'arbre là qui s'étend dans la lumière, ni même qui plonge ses racines, rappelons-nous, mais tout d'un coup voir l'univers à partir des racines, et on oserait dire à certains moments, à partir du dedans des racines. C'est comment arriver à voir non plus de l'extérieur de la peau vers l'intérieur de la peau, mais de l'intérieur de la peau vers l'extérieur. C'est-à-dire percevoir le commencement, l'enfantement dans ce qu'il a d'initial. Rappelez-vous notre grand thème toujours de la chimie. Il peignit l'arbre vu du côté des racines. Le combat souterrain des plantes assassines, l'antre que le feu voit, qu'ignore le rayon, le revers ténébreux de la création. Et alors c'est inépuisable. Hein? Prends sa peine. La forêt surgit. L'arbre superbe fouille le globe. Avec une hydre sous ses pieds. La racine effrayante au long cou replié. Au mille becs béants dans la profondeur noire descend, plonge. Atteint l'ombre étage de la boire et bu au gré de l'air. Du lieu de la saison, l'offre au ciel en encens, ou la crache en poison, parce que nous sommes toujours bien chez Hugo, hein, tout ça va aboutir à l'encens, mais ça faut qu'en même temps ça aboutisse au poison, comme chez Balzac d'ailleurs. Je continue parce que c'est indéfini, le satyre chanta la terre monstrueuse, l'eau perfide sur mer. Si nous avions le temps, il aurait été très intéressant de lire des extraits de Michelet. Michelet, qui est souvent pompeux, qui est souvent assez cuistre, comme ça, dans sa façon d'écrire. Justement, quand il parle de la mer, je dirais, il l'est beaucoup moins qu'ailleurs. Et il fait remarquer que, bon, il y a l'océan, il y a la surface de l'océan, mais il y a le dedans. Et c'est très étonnant, c'est vraiment l'époque, toute l'époque va tourner autour de ça. Il dit, descendez maintenant sous l'eau, et vous allez progressivement perdre la lumière. Et c'est assez étonnant de voir donc cet homme de 1850, qui est là, essayant d'imaginer ce que peut être la plongée sous-marine. L'eau perfide sur mer, dans les champs tortueuses, sembla, dans son prélude erré, comme à travers les sables, les graviers, l'herbe et les roseaux verts. Puis, il dit l'océan, typhon couvert de bave. Puis la terre lugubre avec toutes ses caves, son dessous effrayant, ses trous, ses ans, etc. Il dit la sève. Alors, pour finir, cette espèce de... tout ça aboutit au grand mouvement qui est quoi? Un accouchement. Et l'accouchement lui-même aboutit au commencement. Mais qu'importe la terre. Au chaos contigu, elle fait son travail d'accouchement sans fin. Elle a pour nourrisson l'universel fin. C'est vers son sein qu'en bas les racines s'élongent, les arbres sont autant de mâchoires qui rongent les éléments et part dans l'air souple et vivant. Il dévore la pluie, il dévore le vent, tout leur est bon. La nuit, la mort, la pourriture voit la rose, et lui va porter sa nourriture. L'herbe vorace broute au fond des bois touffus. À toute heure, on entend le craquement confus des choses sous la dent des plantes. On voit paître au loin de toutes parts l'immensité champêtre. L'arbre transforme tout dans son puissant progrès. Il faut du sable, il faut de l'argile et du grès. Il en faut en lentisque, il en faut à lieuse, il en faut à la ronce et la terre joyeuse. Regarde la forêt formidable manger. Enfin, salut chaos, gloire à la terre. Le chaos est un dieu, son geste est l'élément, et lui seul a ce nom sacré, commencement. Alors il y a évidemment l'expérience définitive, nous avons donc descendu là depuis la jaserie, dans l'animal, dans la plante, et il y a maintenant, il y a la dernière épreuve qui est la mort. Et alors là, c'est extraordinaire, parce qu'il y a donc la fin du poème qui est Dieu, il y a la fin, et puis Victor Hugo va reprendre, cette fois, de manière différente, cette fin. Et là, on voit ce que c'est que le mouvement de la création. Je lis d'abord la première fin, celle qui est écrite, qui est, c'est le spectre qui lui dit, « Veux-tu, dans la lumière inconcevable et pure, ouvrir tes yeux ?» Tu veux tout savoir, donc, Par l'ombre affreuse, appesantie, le veux-tu, réponds. « Oui, criai-je !» Et je sentis que la création tremblait comme une toile. Alors, levant un bras, et d'un pan de son voile, couvrant tous les objets terrestres disparus, il me toucha le front du doigt, et je mourus. C'est le dernier mot, la dernière révélation. Mais il n'est pas content. Il continue, il note ses papiers. Il met pile réveil. Il faut que ça se reparte après. Après la mort maintenant, ça repart. Spectre, tu m'as trompé, je ne sais rien encore. Et note entre parenthèses, Dieu c'est l'infini, il recule toujours. Aucune transformation de la vie ne l'atteint. Seulement, on avance dans la lumière. Alors il essaie une autre fin. Deuxième variation. Tout autre chose d'ailleurs, ça va très fort ailleurs. Dis, crois-tu que Dieu prend la peine de cacher dans les immensités sa gloire et sa puissance? Crois-tu que l'univers est une réticence? C'est à toi d'en trouver le sens si tu le peux. Il faut que je trouve. L'univers ne peut pas être une réticence, c'est pas possible. Deuxième solution. Troisième solution. Mais prends pitié de moi, puisque tu m'as conduit. Que l'âme puisse vivre à ce fait adorable, qu'elle n'en meure pas. Fais un Dieu respirable. Troisième solution. Tâche quand même que ça ne soit pas un simple trou, c'est un Dieu respirable. Quatrième solution. Je sentis une main composée sur ma bouche et je fus emporté dans la brume farouche. C'est écrit après le respirable. Donc, le respirable, ça va pas non plus. Je fus emporté dans la brume farouche et puis il n'y a plus rien non plus. Cinquième solution. Rayon. Oh, dis-moi seulement la première action qu'il faut faire ici-bas pour que la porte s'ouvre. Alors, comme au matin l'horizon se découvre, il me montra du doigt l'Orient qui rougit, et j'y lus ces deux mots dans la clarté. Si. Solution qui reprend certaines. Sixième. L'ange montra du doigt le ciel, et je vis Dieu. Ça, évidemment, c'est la solution triomphale. Et la dernière que nous ayons, qui est un peu brillante, comme ça, un peu extérieure, mais qui ne va pas du tout dans ce sens, c'est celle-ci, parce qu'il en aurait sans doute eu 8, 9, 10, 15 après. Qu'es-tu, toi dont la laine effrayante m'effleure, n'es-tu, comme celui qui parlait tout à l'heure dans cette redoutable et pâle région, qu'une des sombres voix de l'esprit légion? Es-tu distinct de lui dans ce vague royaume? Il me répondit, tout est le même fantôme. Et je repris, « Qu'es-tu ? Réponds, suis-je vivant ? Ne m'abandonne pas dans ce désert du vent, qu'es-tu ? Parle, je tremble à ton souffle tranquille, le spectre me dit, je demeure à la vie d'éternité, maison ténèbres, porte nuit. » Ça, probablement, il n'aurait pas gardé, c'est trop brillant. C'est le genre de truc auquel on pense, non très brillant comme ça, et c'est trop brillant pour l'extérieur. Je demeure à la vie d'éternité, maison ténèbres, porte nuit. Voilà l'adresse du mystère. Et c'est trop joli. Et il y a peut-être ce qu'on pourrait compter pour une huitième lecture. Non, rien de tout cela. Et toujours l'autre demande, que demandes-tu ? Lui ! Hein ? Dit l'esprit. Et tout disparut. Et l'espèce de jour qui blêmissait dans la nuée épaisse sombra dans l'air plus noir qu'un ciel cimérien. J'entendis un éclat de rire. Et ne vis rien. Et je crois que celle-ci est certainement peut-être une des plus hugoliennes, le grotesque étant une des dimensions, comme chez Rabelais, une des dimensions d'Hugo. Il n'y a pas d'univers complet. Il n'y a pas de saisie de ce que c'est que le souffle et de toutes les modalités du langage si on ne capte pas le grotesque, qui est très loin du comique. Alors pour faire ça, pour ainsi tout étreindre, et encore l'histoire humaine, des choses comme Napoléon le Petit sont remplies d'une vue historique assez cohérente, il faut avoir, pourrait-on dire, une immense hétérosexualité. Et peut-être que Hugo, comme ces lettres dans le cerveau duquel les mots ont eu les accouplements les plus extraordinaires tout en restant en rapport avec le réel, c'est peut-être un des êtres les plus follement hétérosexuels qu'on ait jamais vu paraître. Un événement biologique de ce point de vue. Hein, qu'on songe, tant l'amour est vainqueur, tant l'âme est vers ce lit mystérieux poussé, si cette volupté n'est pas une pensée. Et tout ça aboutit pour finir dans ce poème indicible qu'est le beau. Beau, cet aller-retour, cette façon où tout peut être vu à la fois du point de vue de l'enveloppant et de l'enveloppé. Beau s'était couché, de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son aile, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Quel battement ! Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Puis ça continue. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi au Seigneur a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Plus loin encore, mes vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau, je suis veuf. Je suis seul, et sur moi le soir tombe, et je cours, ô beau mon Dieu, mon âme vers la tombe comme un bœuf ayant soif, penche son front vers l'eau. Avec le jeu extraordinaire des creusements de veuf, de seul et de bœuf, il avait d'abord écrit âne, l'âne qui est le grand animal pour lui. Mais poétiquement, il fallait pour la réponse là, il fallait bœuf comme un bœuf ayant soif, penche.
son front vers l'eau. La respiration de Boros qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant délices sur leur sommet. Rude songeait et Boros dormait, l'herbe était noire, et voilà la définition du système poétique avec Boros dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce mouvement de grelots, il va nous le donner, donc. Rude songeait, Boros dormait, l'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Le mot qui reprend tout, c'est le mot immense. Hugo, en fin de compte, s'étend dans toutes les directions. Nous avons vu que la direction principale est celle de l'abîme, celle qui creuse, celle qui descend jusqu'à la forêt, jusqu'à la mort, avec toutes les formes de l'ombre. Mais tout cela est quand même toujours repris d'abord dans ce qu'il appelait, lui, le souffle, la respiration. Et la respiration, c'est l'immensité.